La lecture de Hegel ne va pas sans une certaine fascination. Elle relève de ses expériences intellectuelles particulièrement décisives que les difficultés de traduction ont pu rendre cependant rares ou austères. Le séminaire de Kojève était devenu de ce fait une bénédiction pour toute une génération. Alexandre Kojève, que nous allons d'ailleurs entendre précisément en conférence, c'était en effet avec une intelligence presque diabolique proposé de lire, de donner à entendre le pensum qu'est la phénoménologie de l'esprit. Jean-Pierre Brunet, haut fonctionnaire, Bernard Clapier, gouverneur de la Banque de France, Edgar Faure, président du Conseil, Nina Kouznetsov et Denise Harari, Simone Martinet et Jean-Michel Rey, philosophe, ont témoigné en 1990 au micro de Jean Dève. Alexandre Kojève aura fasciné lui-même tant de nombreux intellectuels, philosophes, sociologues, psychanalystes, que de hauts dirigeants de l'administration française. Il s'agit bien ici d'une vie et d'une œuvre, d'un penseur et d'un acteur essentiel du XXe siècle français, dont il est en plus rarissime d'entendre un enregistrement.
Alors, voyez-vous, vous allez voir ceci, ce qui signifie ce principe. Voilà, vous pouvez dire A ou quelque chose que c'est A, et vous pouvez aussi toujours dire que c'est non A. Ça, c'est ce que dit le principe. Que si une affirmation a un sens, la négation aussi a un sens. C'est un axiome, c'est pas évident. Mais, quoi qu'il en soit, vous pouvez dire quelque chose est A, et un autre vous répondra tôt ou tard. Non, ce n'est pas, c'est non A. Ah, sinon, nous ne sommes pas ici. Si tout le monde devait dire toujours la même chose, ça va. Ça va faire autre chose que de... Bon. Alors la troisième, qui vient, voilà, il voit ça. Monsieur Dupont dit A, que c'est A, Durand dit que c'est non A. Il dit, vous avez tort tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nie tout ça. N'est-ce pas? C'est ce que vous obtenez. Vous revenez au point de départ, le discours est circulaire, indépassable, fini. Voyez-vous, c'est ça la dialectique.
Pour lui, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les croyants qui cherchaient un dieu en dehors d'eux-mêmes, et les athées qui voulaient devenir Dieu eux-mêmes. Alors, bon, lui, un peu en riant, il disait que lui, il était athée et il avait réussi à devenir presque comme un Dieu, quoi. Et même, de temps en temps, dans des circonstances vraiment de la vie courante sans importance, il se référait à Dieu en disant le collègue, comme ça pour rire.
Une vie, une œuvre. Alexandre Kojève. La fin de l'histoire. Une émission de Jean Dève.
On saisit dans la postérité immédiate de Kojève, chez des gens comme Merleau-Monty, chez des gens comme Bataille, à la limite même chez quelqu'un comme Lacan, on saisit bien quel est le poids que peut avoir cette idée de fin de l'histoire, enfin. C'est-à-dire comment chacun de ses élèves ou auditeurs doit, d'une certaine manière, se situer par rapport à cette question. Et tout le débat, par exemple, qu'il y a chez le jeune Bataille, dans les années 30, précisément, est autour de la politique, enfin, et d'une sorte de vision, on pourrait dire, à la limite mystique de la politique, a quelque chose à voir avec cette rationalité qu'engendre Kojève. Et la pensée de Kojève, en tant qu'elle avait une sorte de poids politique.
Personnage de roman, Alexandre Kojève tout d'abord commente Hegel et fascine une génération. 1933-1939, premier acte.
Je lui avais dit, j'avais lu naturellement le fameux cours sur Hegel, et je lui avais dit, ce qui est merveilleux pour quelqu'un qui ne suis pas philosophe comme moi, c'est qu'on a l'impression d'avoir la carte Michelin pour un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai, c'est un livre absolument extraordinaire. Et donc il savait, et je crois que ça lui faisait plaisir de penser que j'ignorais pas ce qu'il avait écrit, ou que je m'y intéressais.
1945-1968, deuxième acte. Kojève soupçonne la fin de l'histoire et veut en instruire le dernier homme, c'est-à-dire lui-même. Il sera donc le citoyen de l'état final. Kojève devient conseiller secret auprès de deux hauts fonctionnaires et induit son rêve d'un état supranational. Le commentaire fait place à la négociation. Le marché commun est né.
Tous les membres de l'administration française, tous les fonctionnaires qui avaient un rôle à jouer en ce qui concerne la formulation de la politique économique extérieure de la France, et j'étais de ceux-là pendant les années 50 et 60, ont tous connu Alexandre Kojève, qui avait un rôle tout à fait particulier, je dirais sans précédent, dans l'administration française, d'être celui qui venait s'adresser à l'ensemble des fonctionnaires, ainsi d'ailleurs qu'aux ministres, avec des idées neuves et originales, et la plupart du temps ayant un caractère de provocation. Et ceci irritait beaucoup, mais en même temps, vous obligez à penser. C'est ça, au fond, le rôle essentiel de Kojève a été de nous obliger à toujours nous remettre en question et à, bien souvent d'ailleurs, modifier notre attitude à la suite de remarques qu'il faisait.
C'était en effet une double personnalité. C'était un homme absolument charmant, agréable, et je ne regrette qu'une chose, c'était de ne pas m'être lié davantage avec lui. Ce qui aurait pu se trouver. Mais j'ai mis longtemps à comprendre que c'était le même homme. Celui des ouvrages philosophiques. Je n'étudiais pas spécialement la philosophie. Et quand j'ai eu l'occasion de voir sa conférence, on m'a dit, en effet, vous savez, Kojève est un grand philosophe. C'est uniquement après, quand je me suis occupé de Hegel, que je suis tombé sur le livre de Kojève, qui a été publié à ce moment-là. Il n'avait pas voulu le publier lui-même.
La science est un cycle. Et le livre est le résultat de l'action du sage, qui est aussi homme et citoyen de l'état universel. Le livre intègre notre évolution, c'est-à-dire notre histoire, c'est-à-dire notre répétition. Ainsi arrivé à la fin, écrit Kojève, il faut relire ou repenser le livre, et le cycle se répète éternellement. Troisième acte.
Bon, le deuxième principe est celui du tiers exclu. Ah, celui-là, il dit que, certes, on peut dire de quelque chose que c'est A et que c'est non A, toujours. Mais aussi, c'est tout ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez rien dire d'autre. On peut, si une chose n'est ni A ni non A, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est ineffable. Eh bien, pendant des années, j'ai pu découvrir une preuve logique de l'existence de Dieu. Et j'étais très embêté, parce qu'enfin, quand même, pendant 2000 ans, on a essayé d'en trouver, on a toujours échoué, ce serait vraiment merveilleux, vous comprenez, si je réussis. Donc, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Eh bien, j'ai trouvé. Mais je vous assure, ça m'a pris 5 ou 6 ans. C'est que c'est faux. On peut parfaitement, dans le discours, pourquoi une preuve de l'existence de Dieu, n'est-ce pas, c'est évident. Si vous dites A et non A, et vous pouvez dire A et non A, et rien d'autre, donc, il y a une limite dans le discours, du moins humain. Enfin, avouer que déduire l'existence de Dieu d'un principe découvert par un païen, c'est fâcheux. Alors, bon, heureusement, c'est faux. On ne peut rien en déduire.
Je l'ai toujours connu, disons, puisque nos familles viennent de Russie, sont parties pendant un peu après la Révolution. Donc, finalement, Kojève à Paris avait une famille très réduite, et donc on était mes parents, ma tante, moi et quelques autres personnes, donc je le connaissais bien, quoi.
Nina Kuznetsov, nièce d'Alexandre Kojève.
Évidemment, 18 ans après, On voit les gens assez différemment, mais une personne comme Kojève, je crois que ça marque définitivement, surtout quand on l'a connue assez jeune, quoi. Enfin, je sais que dès 6-7 ans, ce qu'il disait me paraissait toujours marquant et il disait toujours des choses étonnantes, inattendues, quoi. Enfin, il y a le côté inattendu, toujours original, toujours un avis finalement différent des autres sur tous les sujets, et qui paraissait complètement vrai, complètement convaincant. Et en même temps, alors parallèlement, le côté rire, quoi. Ça, c'est un trait essentiel de Kojève, c'est que on savait jamais très bien s'il pensait vraiment ce qu'il disait ou si c'était pour rire. Et puis finalement, il le pensait quand même, mais c'était pour rire aussi. Et disons, l'ironie, le jeu, ça faisait partie intégrante de sa personne. Et pour lui, c'était aussi une partie fondamentale du philosophe, disons. Et alors, avec Kojève, ce qui était assez impressionnant, c'est que il se comportait à moitié ironiquement, comme si lui savait tout, comme s'il était, bon, plus que philosophe, comme s'il était le sage, quoi. De la sagesse discursive, donc bon, il admettait qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être des sages dans leur existence, mais lui disait qu'il avait tout compris, qu'il pouvait tout expliquer, et que donc on était bien obligé d'y croire, même si on pouvait avoir des doutes.
Denise Harari.
Kojève avait quitté la Russie, donc, comme jeune homme, après avoir été emprisonné pendant quelque temps, au moment de la Révolution. Bon, il avait été, c'est assez curieux, mais c'est la période, je crois, où il a été séduit en prison par les idées révolutionnaires. Et il a quitté la Russie, il était d'une famille très aisé, et il s'est enfui vers l'Allemagne avec un ami, et je crois que c'est son ami qui a transporté sur lui le beau-père de Kojève était bijoutier, et il y avait un certain nombre de pierres, de bijoux qu'ils avaient réussi à réunir, et c'est l'ami de Kojève qui a sorti ce petit magot, et ils sont arrivés en Allemagne. Et Kojève avait l'intention d'y reprendre, de continuer ses études. Et alors ça, c'est la période, je n'ai peut-être pas tous les détails, mais enfin c'est la période Heidelberg où il a étudié avec Jaspers, et où il a fait du sanskrit, il a fait du persan, il a fait des mathématiques, enfin il a fait toutes sortes de choses. Et il disait toujours qu'il ne lisait pas parce qu'il avait lu tout ce qu'il y avait à lire pendant cette période-là et qu'il ne lisait plus ensuite. Et je pense, et ça c'est aussi au moment de sa rencontre avec Coiré. Il a connu Coiré parce que, c'est une histoire un peu comique, mais je crois que c'est peut-être pas la peine je vous le dis en tout cas, Kojève a enlevé la belle-sœur de Coiré. Et vous saviez ça, Monette,
non? Non, pas du tout. Bon. Je m'instruis.
Et bon, la famille le mari de cette dame en était très ému, très malheureux. Et le jeune frère de Monsieur Coiré. Et Madame Coiré, qui était une amie intime de sa belle-sœur, a envoyé son mari voir qui était ce jeune homme, qui était d'ailleurs beaucoup plus jeune que la dame en question, qui devait avoir une dizaine d'années de plus que lui. Et enfin, essayer de le sermonner. Et Coiré, qui était un homme absolument délicieux, vous vous souvenez de Coiré, est revenu de cette entrevue, enfin aux anges, très content, tout souriant, et sa femme lui a dit, mais alors c'est merveilleux, tu l'as expliqué, enfin. Et Coiré a répondu, oh non, mais écoute, il est beaucoup, beaucoup mieux que mon frère, elle a tout à fait raison. Et de là date l'amitié de Coiré et de Kojève. Et ensuite, Kojève est venu en France, donc a épousé cette dame, et puis elle l'a quitté, mais enfin, ça c'est une autre histoire, et est venu en France, et ce petit magot qu'il avait, il n'avait pas beaucoup l'intention de s'en occuper, et il l'a confié à russe, un émigré russe, un ami à lui, qui l'a investi dans une affaire qui s'appelait les fromages de la vache qui rit, qui existe toujours. Et naturellement, très rapidement, cette affaire a fait faillite et Kojève s'est retrouvé sans le sou, le magot avait disparu et bon, il n'y avait plus rien, il fallait trouver un moyen de subsistance. Et Coiré, entre-temps, était déjà, enfin, s'était établi d'une façon un peu plus stable en France. Et l'année où Kojève a commencé son cours à l'école des hautes études, Coiré avait été nommé au Caire pour faire une série de conférences et avait demandé à Kojève d'être son suppléant à l'école des hautes études. Et Coiré avait commencé à écrire des articles sur le temps, Hegel, les philosophes allemands, et à introduire un petit peu la philosophie allemande, qui n'était pas très connue à l'époque. D'ailleurs, Aron en parle aussi dans son autobiographie. Il avait commencé à s'intéresser à Hegel et avait commencé ce cours sur Hegel, que Kojève a repris, en concentrant ce cours sur la lecture de la phénoménologie de l'esprit et la lecture commentée. Et c'est ce qu'il a fait pendant ces années. Bon, je crois que c'est à peu près tout.
Alors, toutes les deux, Denise Harari et Monette Martinet, vous avez assisté à ces cours.
Il n'y a pas depuis le début.
Alors, quel était l'intérêt, justement, de ces cours? Car il y avait quand même un centre d'intérêt très très large, puisqu'il y avait Paulhan, Léris, Bataille, Queneau, Lacan. Et entre autres, vous aussi.
Oui. Enfin, pour moi, c'était tout simplement un éblouissement. J'avais déjà eu la chance d'avoir Coiré, de le connaître d'assez près au Caire. Mais enfin, c'était tellement différent des cours auxquels on pouvait assister à la Sorbonne. Pourtant, j'ai eu des professeurs. Enfin, j'avais été à des cours assez intéressant. J'ai eu Braunschweig, et puis j'ai eu Jean Val, et puis... Mais enfin, Kojève, c'était tout à fait autre chose. C'était...
Je suppose qu'en imposant sa lecture de Hegel, Kojève se cherchait quand même à travers lui.
Kojève était à la fois très modeste. Je crois qu'il était modeste et terriblement sûr de lui. Enfin, il vous disait en souriant, et bon, moi, je suis un génie. Ça agace toujours les gens, mais enfin, je le dis parce que c'est vrai. Et puis ensuite, il expliquait qu'au fond, le génie, c'était de voir les choses d'une façon directe, d'arriver à reconstituer l'approche immédiate d'un enfant, et qu'il désarçonnait les gens, justement, en reposant surtout un regard neuf. Et c'est surtout ça, je pense, l'impression qu'on avait.
Neuf et définitif. C'était ça qui était terrifiant. On a l'impression d'être pris dans une espèce de nasse. Et puis, ne pas pouvoir en sortir, puis il n'y avait pas lieu d'en sortir. C'était ça.
Enfin, ça devenait évident, c'était clair. Enfin, il n'y avait pas de... On n'avait plus de questions à se poser, parce que tout était expliqué. Enfin, c'était... Dans un sens, oui, c'était peut-être presque une attitude. On avait presque une attitude religieuse sans s'en rendre compte, parce que on avait entendu la parole. Voilà, c'était ça, n'est-ce pas?
On ne peut pas dire que quelque chose est entièrement A et entièrement non A. Ça ne colle pas. Ça, effectivement, ça annule. Vous savez, pour comprendre ce fameux truc de la négation, de la contradiction, et de la négation du discours par la contradiction, il faut se référer à un discours pratique. Supposez que vous allez dans un café et vous demandez au garçon, apportez-moi de la bière, mais ne me portez pas de bière. Eh bien, vous n'aurez pas de bière. C'est comme si vous ne disiez rien. C'est-à-dire qu'on vous demandera de sortir. Si vous venez ou si vous vous taisez dans un café, au bout d'un certain temps, on vous dira sortez, monsieur. Bien, si vous commencez à parler de cette façon, on vous dira aussi, vous savez, monsieur, sortez. Donc, vous voyez, voilà pourquoi la contradiction annule le discours. Un discours contradictoire existe, mais il est équivalent au silence. C'est pourquoi beaucoup de gens se taisent sans s'en rendre compte. C'est une parenthèse. Donc entièrement ça ne va pas, mais partiellement ça va. Vous avez une pomme, vous dites qu'elle est rouge, moi je dis qu'elle est rouge, vous dites qu'elle n'est pas rouge, qu'elle est verte. Enfin, nous pouvons discuter jusqu'à la fin des jours, surtout si nous, nous sommes tous les deux aveugles, et c'est vraiment le cas. Bon, mais on peut se mettre d'accord, on dira que partiellement elle est rouge, partiellement elle est verte, ce n'est pas contradictoire, il y a des formes comme ça. Bon, seulement vous devez chiffrer. Est-ce qu'elle est surtout, mettons ça c'est rouge et ça c'est vert. Mais est-ce qu'elle est surtout rouge, parenthèse esthétique, ou surtout verte, parenthèse antithétique, ou 50-50, parenthèse synthétique. Bon, alors, regardez maintenant, qu'est-ce qui arrive. Ceci, ça s'annule. Ici, ça s'annule deux par deux. Vous dites ici 10%, 90% rouge et 10% vert. Ici, on dit pas du tout, 90% vert et 10% rouge, non? Toujours, le résultat est nul. On a beau faire des concessions, il y a toujours, finalement, le bon Dieu qui va apparaître. Non, disent les gens, les enfants. Pas du tout, parce que quand je dirais que la pomme est à moitié verte et à moitié rouge, eh bien, vous ne pourrez pas me contredire. Ouais, ici, on fait des concessions, on arrive jusqu'à la moitié. Mais ici aussi, on fait des concessions, on arrive à la moitié. Alors, vous vous rendez compte, maintenant, c'est pire qu'une preuve de l'existence de Dieu. C'est une démonstration que le général de Gaulle a tort et que les anglo-saxons ont raison. C'est le fair compromise qui régit le monde. Vous comprenez, en tant que fonctionnaire, ça n'allait pas du tout. Là, en tant que philosophe, ça m'embêtait. Mais ici, je ne peux plus. Je peux désavouer quand même le chef de l'État, enfin. Alors...
Tant que dure le temps, l'histoire et l'homme, l'être révélé est conçu comme un esprit transcendant ou divin. Et la suppression de la transcendance de l'esprit, qui entraîne la suppression de la théologie, marque la fin du temps, de l'histoire et de l'homme. Mais c'est seulement à la fin du temps que se révèle la réalité, qu'apparaît en d'autres termes la vérité. Car, en réalité ou en vérité, l'esprit éternité est le résultat du temps et de l'histoire. Il est l'homme mort et non un Dieu ressuscité. Et c'est pourquoi la réalité de l'esprit éternel ou absolu est non pas un Dieu transcendant, vivant dans le ciel, mais un livre, écrit par un homme vivant dans le monde naturel. Introduction à la lecture de Hegel, Alexandre Kojève, page 395.
La position de Kojève, c'est, outre sa modestie, de se donner comme celui qui répète, qui enregistre et qui répète ce que Hegel a dit.
Jean-Michel Rey.
Et que par rapport à cette position modeste, en quelque sorte, de commentateur modeste, je crois qu'il y a une chose importante et qui forme un des motifs décisifs de la pensée de Kojève. C'est-à-dire la fin de l'histoire en tant qu'elle doit s'écrire et se répéter. Ou plus précisément, la fin de l'histoire en tant qu'on doit lui trouver, dans le monde contemporain, un équivalent. Or, il se trouve que dans les leçons sur Hegel, Kojève en vient à dire, donc entre 33 et 39, on vient à dire que la réalisation effective de la fin de l'histoire, c'est la Russie de Staline. Bien. Ce qui n'est pas une apologie du régime soviétique du moment, ce qui est simplement le constat du fait que ce que la Russie est en train de mettre en place, c'est une forme d'État qui vise à l'universalité. Et dans une réédition des leçons sur Hegel, en 49, je crois, Kojève rajoute une note à ce propos-là. Je crois que c'est à peu près la seule modification qu'il fait. Une note pour dire la chose suivante, je me suis trompé, la réalisation de l'histoire, ça n'est pas la Russie de Staline, mais c'est le Japon tel qu'il est en train de se développer. Ceci en 49. Donc je crois qu'il y avait chez Kojève une sorte de rêve, peut-être, concernant le destin historique de la philosophie, c'est-à-dire le fait que la philosophie, une fois terminée, reste à voir quel est son sens, et quel est son sens par rapport à l'ensemble du monde contemporain, et donc par rapport à un projet qui se voulait universel.
C'est un peu le rêve aussi de Queneau, finalement.
Alors, c'est sans doute un peu le rêve de Queneau, et je crois que
l'intérêt de Kojève envers Queneau et de Queneau envers Kojève procède de là. Je crois qu'il y a aussi chez Queneau ce rêve et ce jeu sur le savoir universel ou sur une sorte de savoir absolu.
De boulimie.
Une boulimie de savoir, d'encyclopédie, etc. D'une part, et puis d'autre part, ce qui me semble aussi les rapprocher, c'est le fait que, d'une manière beaucoup plus discrète chez Queneau, Hegel devienne une référence absolument indispensable et absolument incontournable. Enfin, et là, je crois qu'il y a le fait d'une, je dirais au-delà de Queneau, d'une génération dans laquelle, précisément, il y a simultanément la découverte, véritable en tout cas en France, de la pensée de Hegel, et la reconnaissance du caractère à peu près indépassable de cette pensée. Alors, je crois que ceci est très important parce que c'est quelque chose qui se déploie tout à fait en dehors, ou pour la plupart en dehors du milieu universitaire, donc c'est quelque chose qui imprègne le tissu intellectuel, d'une part, mais c'est important aussi parce que un des enjeux de ce rapport à Hegel, et ça a habité toute cette génération et celles qui ont suivi, c'est le rapport au marxisme. Alors là, je crois que Kojève a eu un rôle tout à fait fondamental en tant que commentateur de Hegel, mais commentateur de Hegel déployant dans son commentaire des motifs qui avaient une résonance dans la pensée marxiste, enfin, notamment tout ce qui tourne autour de la question du travail, des besoins, etc. Enfin.
Il y a une question que je ne puis éluder. Quand il se déclarait stalinien de stricte observance en 1938 ou en 1939, était-il sincère, ou plus précisément, en quel sens était-il sincère? L'histoire conduit à l'empire universel et homogène, à défaut de Napoléon, Staline, empire ni russe ni marxiste, mais englobant l'humanité réconciliée par la reconnaissance réciproque des personnes. Que la Russie peinte en rouge fut gouvernée par des brutes. La langue même vulgarisée, la culture dégradée, il ne le niait pas en privé. Bien plutôt, il le disait à l'occasion comme une chose à ce point évidente que seuls les imbéciles pouvaient l'ignorer. Ceux qui s'adressaient aux imbéciles jugeaient nécessaire de le répéter. Restait-il en lui un patriotisme russe, caché et rationalisé? Je n'en doute pas. Bien qu'il ait sans aucun doute servi la patrie française, librement choisie, avec un loyalisme sans faille. Il n'aimait pas les Américains, parce que lui, le sage, tenait les États-Unis pour le pays le plus radicalement non philosophique du monde. La philosophie, bien entendu, se confondait pour lui avec les Grecs, les présocratiques, Platon, Aristote, et les Allemands, Kant, Hegel, et entre les deux, les cartésiens. Raymond Aron, Mémoire.
C'est-à-dire que le stalinisme aurait précédé le rêve de l'État chez Kojève.
C'est-à-dire, je crois que la pensée de Kojève, à ce moment-là, entre 1933 et 1939, c'est donc d'une part développer cette idée du savoir absolu. Et de montrer que, chez Hegel, cette pensée du savoir absolu, elle n'est soutenable que en s'accompagnant de la réalisation de l'État universel. Bien. Et on sait que Hegel, au moment, je crois, où il écrivait la phénoménologie de l'esprit, a vu Napoléon passer à cheval à Iéna, je crois, et qu'il a dit « c'est l'âme du monde à cheval ». Bien. Alors, je crois que le mouvement de Kojève, reprenant cette impulsion de la pensée de Hegel, le mouvement de Kojève, c'est un mouvement identique et transposé, c'est-à-dire un mouvement qui a affaire avec l'histoire en train de se faire, l'histoire en tant qu'elle a un projet, c'est-à-dire l'histoire en tant qu'elle vise, à travers toute une série de détours, ce que Hegel appelait les ruses de la raison. Donc l'histoire, en tant qu'elle vise, à produire une certaine universalité. Et donc la position que Kojève adopte à l'égard de la Russie soviétique, lui, faut-il le rappeler, qui était russe d'origine, la position donc que Kojève adopte, c'est de dire, ou de supposer que l'histoire se réalise, trouve son achèvement dans la Russie soviétique de Staline, dans la mesure, simplement, où le projet d'une universalisation de l'État s'y trouve inscrit. Et donc, le projet d'une sorte de cadre général abstrait s'y trouve, en quelque sorte, posé. Et donc, je crois que cette position de Kojève, c'est une position qui, elle aussi, a suscité ultérieurement toute une série de malentendus. C'est-à-dire, on a pensé Kojève comme étant un... faisant l'apologie de la Russie soviétique, ce qui n'était pas précisément le cas. Et je crois que ce qui est le plus important à mes yeux, eh bien, c'est le fait que dans cette, dans ce moment d'avant-guerre, et peut-être là, Kojève s'inscrit-il à de manière tout à fait cohérente dans la pensée française, dans la pensée intellectuelle française. Ce qui est caractéristique de ce moment d'avant-guerre, on trouvait la même chose chez Bataille ou d'autres, c'est la nécessité d'avoir une pensée de l'histoire, et une pensée de l'histoire qui soit une pensée qui vise à la totalité. Et je crois que l'intervention philosophique de Kojève dans ces années entre 1933 et 1939, eh bien, c'est une intervention qui a constamment présente cette idée que l'histoire doit être réalisée. Et que s'il y a fin d'histoire, comme l'annonçait Hegel, cette fin, elle est à répéter aujourd'hui avec plus d'insistance encore. Autrement dit, cette fin, elle est de l'ordre d'un aménagement, en quelque sorte, du monde, et d'un aménagement qui passe par la question de l'État.
N'interromps pas, dit Chantal. Ça t'a plu l'Allemagne ? Il y a des vieilles villes, Jena, Weimar, mais avant tout on est allé à Eckmühl, campagne de 1809. Tout ça c'est des victoires contre les Autrichiens, je me permets de vous le rappeler. Autrichiens, Allemands, c'est la même chose maintenant, dit Paul. Après Ratisbonne, on est monté sur Bayreuth, où l'on joue de la musique, et l'on a suivi la vallée de la Saale, comme l'armée de Napoléon. À Jena, on nous a montré la maison d'un philosophe allemand qui, le jour de la bataille, l'appelait l'âme du monde. Qui il appelait comme ça, demanda-t-on ? Napoléon. Il faut reconnaître que Napoléon, c'était quelqu'un, dit Paul. Faire tant d'histoires pour mourir à Sainte-Hélène, faut être con, dit Julien. Le lendemain, on leur avait montré le champ de bataille où, le 14 octobre 1806, Napoléon avait détruit l'armée prussienne. On les avait également conduits à Hochstatt, où le même jour, Davout avait remporté une victoire parallèle. Et le soir, ils avaient couché à Weimar. Le lendemain, visite de la maison de Goethe. « Ah oui, Goethe !» dit Paul. « Qui donc c'était ?» dit Julien. « Tu me l'as déjà dit, mais à chaque fois je l'oublie. L'auteur de Faust, de Werther et de Mireille. » »« Il avait du talent, » dit Paul. « Paraît que pour la poésie, il y tâtait, » dit Valentin. Il collectionnait aussi les cailloux et les antiquités. Il en remplissait sa maison. On nous a expliqué qu'il adorait Napoléon. Et que, quand les Prussiens ont été battus, il a déclaré qu'il n'y avait qu'à s'incliner et à être au mieux avec les Français, puisqu'ils étaient les plus malins et les plus forts. Raymond Queneau, Le dimanche de la vie.
La science doit donc être circulaire. Et ce n'est que la science circulaire qui est la science achevée ou absolu. L'avènement de cette science est ainsi la preuve de la fin de l'homme, de l'histoire et du temps. Lorsque le discours humain, en partant d'un point quelconque et en progressant nécessairement, conformément à la nécessité logique, retourne à son point de départ, on voit que la totalité du discours est épuisée. Et l'épuisement du discours est aussi l'épuisement de l'histoire, c'est-à-dire de l'homme et du temps. Introduction à la lecture de Hegel, Alexandre Kojève, page 393.
Je ne peux pas dire que je sois jamais devenu intime de Kojève. La seule fois où j'étais chez lui, il habitait près du lycée Michelet, dans un appartement de deux pièces.
François Valéry.
Entièrement tapissé de livres, exactement la bibliothèque qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire tous les livres de référence en français, en anglais, en russe, en allemand, peut-être en d'autres langues, qu'on aimerait consulter, à condition de savoir ces langues, ce qui n'est pas mon cas, tout au moins le russe. Et là, il faisait lui-même un déjeuner, un beefsteak et quelques pommes de terre ou haricots verts. Enfin, il a fait quand j'y suis allé. Et j'ai eu l'impression d'un homme assez solitaire, que peut-être il n'était pas du tout. Ça, c'est une impression personnelle. J'ai aussi une impression physique de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, qui est ce monsieur? Il n'a pas le physique de l'emploi, si je puis dire. Il a plus l'air, ou bien, certes, d'un intellectuel, ou peut-être d'un médecin, peut-être un psychanalyste, ou peut-être un artiste. Il avait quelque chose de très différent du vulgum pecus, si ce mot s'applique, de l'administration publique et de la fonction publique. Mais j'ai eu alors, sur le plan intellectuel, des rapports assez intenses, parce que Kojève était un homme qui avait des idées, qui essayait de les formuler de façon très originale, mais qui n'était pas simplement, se contentait pas simplement de formuler des idées, il aimait qu'il y ait, comme on dit d'une façon assez laide, du suivi, c'est-à-dire il aimait que les choses se poursuivent, tout en ayant à l'égard de la hiérarchie administrative une grande déférence et un grand respect. C'était pas du tout un homme qui faisait valoir une supériorité intellectuelle qui était évidente et qui était la sienne, pour réduire les autres à une situation d'infériorité, pas du tout. Mais en même temps, il s'intéressait au continu et à la suite de ce qu'il avait lui-même pensé. Et je dois dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont pu croire que Kojève était un philosophe moins peut-être, enfin, ils n'étaient pas conscients de l'importance philosophique de Kojève. Et moi-même, d'ailleurs, je l'ignorais quand je l'ai connu. Mais à mon avis, en y réfléchissant, pour moi, Kojève, c'est un peu comme ces chercheurs fondamentaux qui ont trouvé une molécule extraordinaire ou je ne sais quel rapport dans les secrets de la matière, et puis qui s'amusent à passer à un autre stade et inventent un plastique quelconque pour servir à je ne sais quel constituant d'une voiture automobile. C'est-à-dire qu'il s'est situé au fond sur deux plans. Mais son mode de raisonnement, et évidemment on ne peut pas parler de Kojève sans penser à Hegel, était structuré de telle façon que même dans les notes sur des sujets très concrets, par exemple sur les taxes à l'importation ou l'aide à l'exportation, on avait l'impression qu'il y avait derrière tout cela une très grosse artillerie qui n'apparaissait pas au premier plan, n'est-ce pas ? Et ce souvenir m'est venu, à un moment donné où la France se trouvait en difficulté de balance des paiements, était en déficit, où normalement on aurait dû dévaluer, Kojève avait préconisé l'idée justement de mettre des taxes à l'importation, une aide à l'exportation, ce qui équivalait en fait à une quasi-dévaluation. Et alors il avait inventé un mot pour cela, il appelait ça de l'avance sur le siècle. Parce que cette façon de faire n'était pas très orthodoxe au regard des institutions économiques internationales, mais il considérait que c'était non seulement tout à fait valable, mais que c'était une idée d'avenir qui était beaucoup plus utile qu'une dévaluation. Alors, est-ce qu'il y avait derrière tout cela une pensée politique plus déterminante? On aurait pu penser, après tout, Kojève aurait pu être un marxiste. Il aurait pu être. Il avait un certain nombre de gènes dans son système héréditaire qui aurait dû peut-être le porter vers ce qu'on appelle la gauche. Or, il n'était pas un homme de droite, mais il n'était certainement pas un homme de gauche. Mais alors, évidemment, au-delà de ça, qui était-il? Comment? Je ne peux pas répondre. Et c'est d'ailleurs ce mystère qui l'accompagne dans ma mémoire et qui nourrit d'abord mon affection pour lui, parce que je ne l'ai jamais déchiffré, tout en ayant l'impression que on pouvait avoir un contact très heureux avec lui sans aller vraiment peut-être au-delà du était-ce la surface ou n'était-ce pas, j'en sais rien, mais de quelque chose qu'on ne pouvait pas dépasser.
Assister au cours, oui. Et puis après on allait dîner avec Marjolin, Lacan, Coiré, que Bataille ne venait pas, non ça c'était pas dans ce groupe là
Vous posiez des questions?
Ah non.
Ah non, non, non.
Non, ça, personne. Non, justement, non, je suis demandé si quelqu'un...
Fois. Si, il y avait de temps en temps, il y avait une petite discussion entre le professeur et...
Ça, ça, j'allais dire, voilà. Si quelqu'un posait des questions, ça devait être le professeur.
Et Kojev s'adressait assez volontiers au professeur, parce qu'il y avait ce jeu avec le Dieu, l'existence de Dieu. Enfin, ça, c'était le grand...
Ah oui, c'était...
Enfin, c'était le nœud, au fond, parce que oui, Kojev était profond... Enfin, toute la philosophie de Kojev est une philosophie profondément athée. Enfin, elle est basée sur le fait que l'homme est mortel. Alors, évidemment, le professeur était à la fois assez fasciné et cherchait le point faible pour réfuter cette logique qui semblait être... dont on semblait ne pas pouvoir sortir.
Il se trouve qu'après la guerre, M. Kojev a pris une orientation tout à fait différente, semble-t-il. Il est entré à la suite de Marjolin, directeur de l'OSD, qui a été un de ses disciples également, qui était là. Marjolin l'a entraîné à faire de l'économie politique. Et M. Kojev est devenu une des têtes de l'économie mondiale, de la politique. Il écrit des articles sur le colonialisme, sur le juste prix du blé. Il participe aux conférences internationales de Londres, New York, Luxembourg. Il y défend les intérêts de la France. Et d'après ce qu'on m'a dit, fort bien. Encore l'autre jour, André Philippe me disait « Oh, les Américains ne peuvent pas résister à la dialectique de Kojev. » Et voilà. Alors, en même temps, on le dit éminence grise, plus ou moins, dans les tractations. C'était imprimé, alors je peux le dire, imprimé dans les temps modernes, dans les tractations qui ont amené aux écorts des temps, la solution de la question d'Algérie. Et puis, il se trouve qu'en même temps, M. Kojev continue ses lectures philosophiques. Ça, même il étend ses lectures au côté théologique et patristique, les origines chrétiennes. Et il a un millier de pages, je crois, qui sont tapées chez Gallimard, mais nous ne savons jamais si ses occupations politiques et économiques lui permettront de les éviter. En tout cas, j'ai demandé à M. Kojev de vous dire un petit peu comment il construit l'histoire de la philosophie. Je vois qu'il a déjà mis un schéma au tableau. Je me rappelle la joie que j'ai eue lorsque je l'ai lu en 36 ou 37, n'est-ce pas, dessiner des cercles. J'étais déjà familier avec les cercles de Hegel et j'ai été enchanté de trouver quelqu'un qui également employait cette méthode. Alors je vous laisse la parole, cher ami.
Si je ne veux pas évidemment refuter ce que vient de dire mon ami le professeur, il a beaucoup exagéré, mais enfin.
Bon, après-guerre, il disait qu'il avait le choix entre continuer à faire son cours ou donc travailler dans l'administration, c'est-à-dire à la direction des relations économiques extérieures, au ministère des Finances. Et enfin, il disait que finalement, ça lui avait paru plus amusant. Le cours, il l'avait déjà fait, et il se voyait pas du tout devenir académique, répéter toujours la même chose, ça n'intéressait plus. Une fois qu'il l'avait fait, d'ailleurs un peu par hasard, lui voulait faire autre chose, parce que c'était quand même une personne d'action, bien qu'il ait passé effectivement une grande partie de sa vie uniquement à étudier, à lire, et disons qu'il était trop intéressé peut-être par la vie et par ce qu'il pouvait apprendre pour se décider à passer des années à écrire ce qu'il savait déjà. Donc en fait, il travaillait par bribes. Il écrivait certainement le dimanche, mais bon, sinon on a retrouvé effectivement un certain nombre d'écrits qui sont pas encore tous publiés et qui sont chaque fois des introductions au livre fondamental, mais sont toujours des introductions à l'introduction qui contiennent finalement l'essentiel, mais qui restent toujours un peu cachées. Bon, moi je lui demandais comment est-ce que, toujours avec, je veux dire, un point de vue d'adolescent, donc pas vraiment réfléchi, comment est-ce qu'un philosophe finalement peut être fonctionnaire, ça paraît bizarre. Alors lui, bon, je me souviens qu'une fois il avait répondu que effectivement, tant que l'histoire dure, un philosophe ne peut absolument pas agir dans l'histoire, mais puisque l'histoire est finie, le philosophe peut très bien participer à la gestion des affaires du monde. Alors, est-ce qu'il le croyait vraiment comme ça? Peut-être en partie. Peut-être un peu.
Non, enfin, le début de cette vraie vie, que j'avais été, enfin, avait passé la période de guerre ici. Bon, je lui ai laissé ce qu'il y avait ici, et je venais juste d'être majeure, donc je lui avais laissé ma procuration générale, et il y a tout un petit groupe qui a survécu de cet argent qui était resté là. Mais enfin, la guerre se terminait, j'allais rentrer, bon, il fallait trouver quelque chose pour que j'aie. Alors, on en a parlé avec Marjolin, et Marjolin a dit, bon, on va le faire entrer d'une façon ou d'une autre dans l'administration. Alors, Kojève lui a trouvé un poste de traducteur au commerce extérieur. Et il a commencé comme ça, parce qu'il connaissait plusieurs langues. Et je crois que la première personne qui l'ait séduite dans l'administration était son patron, Rousselier, qui était le directeur du commerce extérieur, qui a tout de suite reconnu que Kojève était un personnage assez extraordinaire, qui ne connaissait rien, évidemment, aux questions pratiques, enfin, aux rouages de l'administration. Mais alors, Rousselier racontait que Kojève était un fonctionnaire très zélé, respectueux des règlements, respectueux de la hiérarchie et de tout pendant la journée. Puis le soir, ils allaient prendre un pot et Kojève expliquait à Rousselier comment il fallait qu'il fasse son métier. Les différents patrons de Kojève sont tous devenus ses amis. Il y a eu Clapier, il y a eu Olivier Wormser. Et puis alors, le successeur de Wormser a été donc ensuite Jean-Pierre Brunet. Mais enfin, Jean-Pierre Brunet, par rapport à Kojève, se sentait plutôt petit garçon à l'époque. Enfin, Kojève avait déjà, à ce moment-là, acquis une certaine autorité. Et il allait dans les conférences internationales avec le chef de la délégation, qui était son patron. Mais son patron lui demandait dans les coulisses, au fond, ce qu'il fallait faire.
Enfin, dans sa personnalité, il y avait, et ça allait avec sa conviction philosophique, il y avait aussi que, par exemple, que, bon, quand l'histoire est finie aussi, il n'y a plus d'homme. Alors, il n'y a plus d'homme, ça veut dire que il n'y a plus de raison de risquer sa vie. Et si l'homme ne risque plus sa vie, il n'est plus un homme. Alors, bon, il disait que, si l'histoire est finie, alors quand même les hommes essaient de continuer à vivre comme s'ils étaient des hommes et cherchent des situations absurdes et sans véritablement de sens pour continuer à risquer leur vie. Alors par exemple, il y a toujours des toreros qui risquent leur vie sur l'arène en face du taureau, il y a toujours des alpinistes qui risquent leur vie dans les montagnes, enfin que tout ça c'est des restes de l'humanité, quoi. Enfin, lui-même, d'ailleurs, ça, je pense que ça l'avait marqué aussi. Il avait risqué sa vie, disons, au moins deux fois. Une fois pendant donc la Révolution russe, où il était encore très jeune, puisqu'il est né en 1902, donc il devait avoir 15-16 ans. Et bon, là, c'était une histoire un peu d'adolescent aussi, parce que bon, il s'était amusé avec d'autres camarades à faire du marché noir, comme en faisait beaucoup. Et bon, un beau jour, il a été arrêté. Et il savait qu'il risquait vraiment d'être exécuté le lendemain. Et il y avait des adolescents de 14-15 ans qui étaient exécutés comme ça. Et bon, finalement, je crois qu'avec ses relations familiales, il a pu s'en sortir. Mais bon, il disait que ce jour-là, cette nuit passée dans la prison bolchevique, il avait compris que il se préparait vraiment quelque chose d'essentiel pour le monde et que la conclusion, c'est qu'il fallait partir le plus vite possible, que lui, il voulait pas y vivre. Bon, la deuxième fois, c'était pendant la guerre, donc pendant la deuxième guerre, où il avait donc participé à la résistance. Enfin, ça, je peux pas en dire plus de détails parce que je le sais seulement par oui dire. Mais bon, un jour, il a été arrêté par les Allemands. Et là aussi, il savait qu'il risquait d'être exécuté le lendemain. Alors là, il semble qu'il a trouvé un terrain d'entente philosophique avec l'officier allemand qui devait décider de son sort. Et qu'il a réussi à le convaincre, finalement, qu'ils étaient tous les deux des hommes cultivés qui comprenait les choses, et que Donc, il ne devait pas subir le même sort que les autres, et ça marchait. Mais alors, il avait vraiment un pouvoir de convaincre les gens qui était extraordinaire, je crois. En même temps, il savait, enfin, il disait toujours que, bon, par la parole, qui était bon, son arme absolue, on ne peut pas vraiment convaincre. Bon, on peut peut-être persuader, on peut, mais finalement, chacun est libre de rester sur ses positions.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, alors, le discours éthique est le discours pratique. Nous parlons non pas pour dire quelque chose que nous croyons être vrai, ou faux, selon le cas, mais pour obtenir quelque chose. Quand je demande à un garçon, apportez-moi de la bière, ce n'est ni vrai, ni faux. C'est efficace. C'est tout. C'est nécessaire. Parce que s'il me disait, allez vous faire pendre ailleurs, j'aurais été très étonné. Très étonné. Enfin, on escompte l'efficacité nécessaire de ce discours. Mais on escompte aussi que le garçon va travailler pour l'exécuter. On ne pense pas qu'il va faire des passes, prononcer une incantation et que la bière me arrête. Ça, je serais étonné aussi. Donc, il va travailler. Ben, et supposez qu'il me dise, eh bien, tu ne m'as pas regardé deux fois quand me demandant la bière. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui donne un coup de poing dans la figure. Du moins, si j'étais plus jeune, je l'aurais fait. Enfin, en tout cas, j'aurais été très étonné. Donc, mon Dieu, il n'y a pas si longtemps qu'on tirait sur les ouvriers qui faisaient la grève. Peut-être pas les garçons, mais enfin. Donc, en dernière analyse, le garçon m'apporte de la bière. Pourquoi? Parce que tout ceci est inséré dans un ordre social qu'il faut, le cas échéant, défendre les armes à la main. Si personne n'est prêt à défendre cet ordre, les armes à la main, ben vous savez, le garçon vous enverra la bière à la figure. Ça finira mal. Donc voilà, ça sont des ordres. Enfin, la thèse parathétique. Qu'est-ce que c'est que le discours qui est un peu de ça, un peu de ça? Il est efficace, il l'est directement en tant que discours, mais nécessairement. À la différence de la prière, l'effet est nécessaire, mais comme dans la prière, c'est le discours seul qui agit. À la différence de l'ordre, ce n'est pas médiatisé, c'est le discours seul qui agit, mais, comme dans l'ordre, c'est nécessaire. Eh bien, ça s'appelle... Mais vous, c'est toujours ennuyeux, parce que la parathèse, c'est mauvais, c'est contradictoire. Ça s'appelle la mort, le commandement moral. C'est ton devoir, mon cher. C'est un impératif catégorique. C'est un ordre. Mais, on ne peut pas m'obliger. Au fond, je n'ai rien à faire. Du moins, d'après Kant, j'ai bien travaillé ça. Mais ce qui compte, c'est que je dois être moral. Enfin, ce que je fais n'a aucune espèce d'importance. Que j'assassine, non, ça, c'est rien. Mais l'essentiel, c'est d'être moral. Bon, ben, ça, on l'est pas. Seulement, on doit l'être. Du sollst. Et puis, Fichte qui dira, du kannst, du sollst.
Les objets fabriqués, créés par les autonégations actives de l'esclave travailleur, s'insèrent dans le monde naturel et le transforment donc réellement. Pour pouvoir se maintenir dans la réalité de ce monde transformé, humanisé, l'esclave doit changer lui-même. Mais puisque c'est lui qui a transformé le monde donné en y travaillant, le changement qu'il semble subir par contre-coup est en fait une auto-création. C'est lui-même qui se change, qui se crée, autre qu'il n'a été donné à soi. Et c'est pourquoi le travail peut l'élever de la servitude à la liberté, qui sera cependant autre que celle du maître oisif. Ainsi, en dépit des apparences, l'esclave travaille aussi pour soi. Introduction à la lecture de Hegel, Alexandre Kojève, page 500.
J'ai connu Alexandre Kojève,
Edgar Faure,
qui occupait des fonctions importantes à la direction des relations économiques. Et je le rencontrais dans des réunions, j'étais à ce moment-là secrétaire d'État, et puis ministre. Tout le monde attribuait beaucoup d'importance à ses propos, que dit M. Kojève, etc. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que j'ai découvert que cet Alexandre Kojève, directeur de ministère, arrivait à un point où ses avis étaient écoutés, mais qu'il n'était tout de même pas un sommet. était en même temps un autre sommet, alors un véritable sommet, dans un autre domaine, celui de la philosophie. Et je me suis familiarisé à diverses reprises avec ses œuvres. D'abord, il a écrit des ouvrages qui font autorité sur la philosophie grecque, en 3 tomes, auxquels je me réfère d'ailleurs de temps en temps dans mes propres études. D'autre part, il avait fait une étude très approfondie sur Hegel. Et cette étude a été publiée par ses amis, mais il n'avait jamais voulu ou il n'a pas eu le temps de la relire lui-même. Et la Nouvelle Revue française, je crois, a décidé finalement de publier ce tome sur Hegel, de Kojève, qui est très intéressant, que j'ai lu parce que c'est une des manières les meilleures de se familiariser avec la philosophie de Hegel. Je m'en serais occupé plus tard parce que lorsque j'avais quitté la présidence du Conseil, ou qu'elle m'avait quitté, en 1956, et par la suite, après les événements de 1958, j'ai fait l'agrégation de droit et j'ai enseigné les idées politiques à la faculté de Dijon. Et quand j'ai abordé la période hegélienne, j'ai pensé que le meilleur truchement était Alexandre Kojève. Donc j'ai connu Kojève, si je puis dire, physiquement comme un homme avec qui je parlais des problèmes économiques, et philosophiquement d'après ses œuvres. Il y a d'ailleurs entre ces deux Kojève une liaison, un pont d'articulation qui est assez intéressant. Kojève ne faisait plus de philosophie, mais en même temps il n'était pas complètement accaparé par la seule pratique. Et il a fait à un moment une conférence qui était très intéressante, que je n'ai pas entendue, mais dont je me suis procuré le schéma, dans laquelle il a soutenu des idées fortes qui étaient tout à fait remarquables. Selon la thèse de Kojève, le marxisme avait été démenti parce que les agents de l'économie et les groupes sociaux avaient réagi de manière différente de celle que Marx avait escomptée. Mais il avait établi, Kojève avait établi, une discrimination entre la manière dont les capitalistes, si vous voulez, les agents de l'économie capitaliste, c'était capitaliste, avaient réagi normalement, et la manière dont ils avaient réagi dans la conjoncture coloniale. Selon Kojève, je crois qu'il avait raison, les patrons n'avaient pas fait ce que Marx croyait qu'ils feraient. Au lieu de diminuer les salaires ou de les laisser à un très bas niveau, ils les avaient au contraire améliorés. Ils n'avaient pas appliqué la loi des reins. Vous me direz que la loi des reins, d'ailleurs, n'est pas de Marx et qu'elle est de Lassalle. Mais ils n'avaient pas appliqué la célèbre règle selon laquelle le salaire tend à se réduire à l'ensemble des subsides nécessaires pour entretenir la force de travail. Et le patronat, au contraire, admit que les salariés devaient bénéficier de traitements en augmentation. Pourquoi le patronat a-t-il admis cela? J'ai fait moi-même des raisonnements là-dessus, Kojève en avait fait, et en vous le retraçant, je ne puis pas très bien distinguer quelle est sa part et quelle est la mienne, mais nos points de vue concordaient. À la fois parce que les patrons étaient sous la contrainte d'une certaine action syndicale. C'est un point que les premiers auteurs n'avaient pas prévu. Notamment, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'un homme aussi clairvoyant que Tocqueville, dans sa démocratie en Amérique, raisonne assez curieusement. Il dit, ben, les ouvriers, eux, ils n'ont pas la possibilité de faire des ententes, alors que les patrons, ils le peuvent. Donc Tocqueville, cet homme génial, après tout, on est un homme de son temps, avait pensé que les patrons pouvaient faire des syndicats, mais pas les ouvriers. Donc ça a été une des choses que Tocqueville n'avait pas prévues, et Marx non plus. Il y a eu également la pesée qui a résulté de la démocratie politique, de l'éducation générale. Et puis enfin, un jour, le patronat a découvert que ce qui était mauvais individuellement à l'échelon microéconomique pour chaque patron était bon globalement à l'échelon macroéconomique pour tous les patrons. Un patron qui fabrique 10 000 paires de chaussures, s'il est obligé de payer un peu plus ses ouvriers, va avoir moins de bénéfices. Mais inversement, si tous les patrons augmentent tous les ouvriers, au lieu de vendre 10 000 paires de chaussures, il en vendra 20 000 ou 30 000, parce que les autres ouvriers des autres patrons, ayant de l'argent, achèteront des chaussures. Donc chaque chaussure lui rapportera moins, mais il en vendra davantage. Pour toutes ces causes confondues, le patronat n'a pas agi de la manière dont Marx avait prévu qu'il agirait. Les agents économiques ne sont pas conformés à ces prévisions, qui étaient valables à partir d'une certaine hypothèse psychosociologique, psychoéconomique, qui ne s'est pas maintenue. Mais en sens inverse, disait Kojève, dans l'expérience coloniale, alors là, les prévisions de Marx ont été vérifiées parce qu'on a maintenu un salaire de famine, ou en tout cas un salaire très bas, pour la main-d'œuvre coloniale. La loi a joué sur l'exploitation, en somme, des travailleurs, des colonies. À cela s'est ajouté l'élément susceptibilité, l'élément moral, psychologique, bien que dans la thèse marxiste, ce ne soit qu'un épiphénomène ou une superstructure. Donc, l'explosion que Marx avait prévue ne s'est pas produite à l'intérieur des pays capitalistes, mais elle s'est produite dans l'ensemble du monde colonial. Voilà quel était le raisonnement très remarquable de Kojève. Maintenant, il paraît plus banal, mais c'était une époque, justement l'époque charnière, ce qui prouve que cet homme avait gardé la capacité, ou assumé la capacité, de dominer la théorie générale et d'en faire des applications à la vie pratique.
Début 1960.
Jean-Pierre Brunet.
Il n'était peut-être pas le seul à l'avoir eu cette idée, mais néanmoins c'est lui qui finalement l'a fait mûrir et accepter. L'idée qu'il fallait absolument, dans le commerce international, accorder ce que j'appellerais un handicap aux pays pauvres. Ce handicap sous la forme tout simplement, très simplement, de l'entrée en franchise de leurs produits manufacturés, qui évidemment... Surtout à l'époque, étaient peu nombreux, car bon, ces pays pauvres, précisément, ils étaient pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vendaient pas de produits manufacturés, parce qu'ils ne vendaient guère que des matières premières, que ce soit alimentaires ou minières. Et l'idée que l'on a ensuite baptisée du nom compliqué de préférence généralisée, eh bien, c'était tout simplement que tous les pays industriels devaient laisser entrer ces produits fabriqués sans droit de douane. Alors, c'est une idée qui au départ a connu des fortunes diverses, ne serait-ce que parce que forcément les industries des pays riches, y compris notamment de notre pays, disaient « mais enfin c'est de la folie, comment faire pour se prémunir contre une concurrence de pays où les salaires sont le 10e, le 20e de chez nous, et en plus leur donner cet avantage douanier ?» C'était d'autant plus difficile qu'à l'époque, le général de Gaulle était au pouvoir, où tout ce qui venait du général, qui avait accepté cette idée, paraissait a priori, parce que à l'époque, notamment du côté soit anglo-saxon, soit allemand, on se demandait s'il n'y avait pas là-dessous une machiavélique torpille, si j'ose dire, de la France. C'était l'époque où nous avions refusé l'entrée de l'Angleterre de marché commun, c'était l'époque où nous avions refusé l'intégration dans l'OTAN, et on s'est dit tiens, mais alors que c'est encore une idée française. Et grâce à Kojève, et moi j'ai beaucoup travaillé avec lui à ce moment-là, nous avons réussi malgré tout à démontrer à ceux qui a priori n'aimaient pas beaucoup la politique française en général de l'époque, que cette idée simple était une idée raisonnable, même si ça nous a pris du temps, même si nous avons d'abord convaincu la communauté européenne, nous avons d'abord convaincu les Allemands, et plus tard, les Anglais, les Américains, les Japonais ont accepté cette idée simple qui, sans être, disons, sans avoir bouleversé la face du monde, c'est entendu, mais enfin, a été finalement, sur le plan commercial, la seule idée qui ait été mise en pratique par tous les pays riches et qui a malgré tout permis à... malheureusement un nombre trop faible, c'est vrai, mais un certain nombre de pays pauvres de développer leur industrie. Et ça, véritablement, Kojève a joué dans cette affaire-là un rôle essentiel.
Pour lui, il y avait vraiment une échelle de valeur dans les activités humaines. Enfin, c'est comme ça qu'il me le disait maintenant. Il y avait aussi un côté pédagogique, donc il faut faire la part des choses. Pour lui, le mieux, c'était d'être philosophe. C'était bien d'être un homme d'action, économique, politique. Diriger les hommes, quelque sorte. D'abord comprendre... comprendre les hommes, ensuite diriger les hommes, ensuite encore s'occuper des sciences humaines, c'était quand même mieux que les sciences exactes.
Ce qui est le plus certain du mode de pensée, de la science traditionnelle, c'est ce qu'on appelle son classicisme, soit le règne aristotélicien de la classe, c'est-à-dire du genre et de l'espèce, autrement dit de l'individu considéré comme spécifié. C'est l'esthétique aussi qui en résulte, et l'éthique qui s'en ordonne. Cette éthique, je la qualifierais d'une façon simple, trop simple, et qui risque de vous faire voir rouge, c'est le cas de le dire, mais vous auriez tort de voir trop vite. La pensée du côté du manche et le penser de l'autre côté. Ce qui se lie de ce que le manche est la parole. C'est dit déité manche, c'est dit manche, le dimanche de la vie, comme dit Queneau, non sans du même coup en révéler l'être d'abrutissement. Pas évident au premier abord. Mais ce que j'en relève, c'est que ce dimanche a été lu et approuvé par quelqu'un qui, dans l'histoire de la pensée, en savait un bout, Kojève nommément, qui reconnaissait rien de moins que le savoir absolu tel qu'il nous est promis par Hegel. Jacques Lacan, encore.
À partir de 1954, époque à laquelle Olivier Wormser a été nommé directeur des affaires économiques au Quai d'Orsay, nous avons formé, Olivier Wormser, Alexandre Kojève et moi, un trio qui était célèbre à l'époque dans toute l'administration française, parce que nous régnions, si je puis dire, sur toutes les négociations économiques internationales.
Bernard Clapier.
Ce trio a duré jusqu'à 1963 ou 4 à peu près. Et c'est moi qui l'ai abandonné le premier, parce que je suis devenu sous-gouverneur de la Banque de France. Et Kojève l'a abandonné en second, quand il est mort, en 1968. Je me souviens d'ailleurs, pour illustrer ce trio, je me souviens d'un jour où nous étions en mission à Washington, je crois, tous les trois. Et Hervé Alphand, qui était ambassadeur de France aux États-Unis à cette époque, nous avait reçus à déjeuner avec quelques personnalités américaines qui avaient souhaité nous connaître. J'entends encore Hervé Alphand nous présentant, tous les trois, un Américain, je crois d'ailleurs me souvenir que ça pouvait être Henry Kissinger, qui connaissait à peu près le français et la littérature française. Et il nous a présenté, Olivier Wormser et moi, comme Bouvard et Pécuchet. Kissinger a montré du doigt Kojève, et lui c'est Flaubert. On ne pouvait pas donner meilleure définition de la hiérarchie du trio, l'inventeur, si je puis dire, l'inspirateur, et les deux exécutants qu'Olivier Wormser et moi étions pour l'occasion. Nous fonctionnions, Alexandre Kojève et moi, de la manière suivante. Et moi, je tenais le pupitre, si je puis dire, dans les négociations. Et il était à côté de moi et il me faisait passer des notes sur un petit bout de papier. Et chaque fois me conseillant l'argument à utiliser. Des arguments qui étaient parfois un peu provocateurs, si je puis dire. Il aimait bien provoquer. C'était la terreur des autres délégations, précisément, parce que son imagination était très fertile, et il n'avait pas de peine à exprimer toutes sortes d'arguments difficiles à contrer. Et quand on voyait arriver Kojève dans la délégation française, c'était la panique dans les autres délégations, surtout quand personne n'était avec lui. Là alors, c'était l'apothéose de sa carrière administrative, et en même temps l'apothéose de sa dialectique, parce qu'il était maître de son jeu à ce moment-là complètement. Non, il était vraiment une intelligence exceptionnelle. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pratiqué Raymond Aron, je dois dire. Nous avons déjeuné souvent ensemble, tous les trois, pour parler de questions diverses, mais jamais de questions strictement philosophiques, toujours de questions d'économie mondiale, si je puis dire, et Kojève était dans son élément, Raymond Aron aussi. Et c'était un enchantement pour le modeste témoin que j'étais.
Les derniers souvenirs que j'ai sur Kojève, puisqu'il est mort le 4 juin 68, donc juste après les événements de mai 68, quoi. Et bon, il se trouve que j'étais là quand Raymond Aron l'a appelé au téléphone, je ne sais plus, dans les derniers jours de mai, premier jour de juin, et bon, il parlait de ce qui se passait. Et alors Raymond Aron disait que c'était très grave, que c'était très sérieux, et Kojève prenait ça absolument pas au sérieux. Et alors son critère, c'était de dire, personne n'est mort, donc vraiment c'est pas sérieux, parce qu'une vraie révolution, c'est quand les gens meurent. Et je crois qu'Aron disait, mais vous allez voir, il va y avoir des morts au mois de juin.
Le 29 mai 1968, Kojève m'appela au téléphone. Nous causâmes plus d'une demi-heure. Il était plus assuré que je ne l'étais moi-même qu'il s'agissait non d'une révolution, mais d'un « à la manière de ». « Il n'y a pas de révolution, me dit-il, puisque personne ne tue ou ne veut tuer. » Les troubles lui inspiraient un profond mépris. Réaction d'un Russe blanc. Je lui racontais qu'aux États-Unis, je ne pouvais pas tenir en place, impatient de revenir pour voir ou agir. Il me répondit « Vous étiez pressé de regarder de plus près l'épitrerie de cette sordide connerie. » 24 heures plus tard, je ne doutais plus que les événements eussent singé la grande histoire. Raymond Aron, mémoire.
Il a joué, évidemment, dans l'administration française un rôle peu connu, mais absolument clé, pendant, finalement, bon, à partir des années 50 jusqu'à la fin de son existence. Il était très écouté.
Même par De Gaulle? Directement, je veux dire.
Pas vous dire, je ne pense pas, mais malgré tout indirectement sûrement, dans la mesure où il avait quand même, à la grande stupéfaction, parce que finalement ça stupéfiait aussi bien les Allemands que les Anglo-Saxons, que nous ayons comme égérie, je dirais pratiquement, égérie intellectuelle, un personnage dont chacun savait qu'il était un philosophe, qu'il n'était pas a priori un économiste, ni un homme politique, que l'administration française se soit en quelque sorte à ce point servi, si j'ose dire, du cerveau d'un homme qui... Ça surprenait énormément les finalement, toutes ces politiques européennes, autres, c'est quand même le fait essentiellement de fonctionnaires qui disent à leurs ministres qu'il faut qu'ils disent. Simplement, il y avait une espèce de surprise, justement, à voir brusquement un philosophe intervenir pour expliquer doctement qu'il fallait absolument que les tarifs perçus par l'Allemagne sur les produits fabriqués venant du Brésil soient nuls, n'est-ce pas? C'était ça qui surprenait. Mais le tout est quelquefois, évidemment, il se permettait alors de descendre en flamme avec énormément d'humour un délégué d'un pays que je ne citerai pas, peu importe, de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ou avec notre propre politique. Et il le faisait, je dois dire, de temps en temps, c'est à ce moment-là que la rougeur apparaissait sur les joues ou le front du délégué en question. Mais évidemment, il ne restait plus rien de lui parce que l'argument, au point de vue dans le débat, il était incontestablement très, très fort. Et il réduisait à cuillère, il réduisait au silence les malheureux qui avaient cru devoir ou bien s'opposer à lui ou pire encore, se moquer de lui. Alors là, il ne ratait pas.
Bruxelles, 4 juin 1968. Dernière intervention d'Alexandre Kojève au groupe Ouest commercial du marché commun.
Merci beaucoup. Monsieur Kojève.
Comme souvent aujourd'hui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Burstadt. Personnellement, je suis, tout le monde sait, très favorable à une politique commerciale commune, mais elle n'existe pas. Et tant qu'elle n'existe pas, on ne peut pas introduire de clauses communautaires. On ne peut pas faire une politique commerciale commune par la bande. Il faut la faire intégralement. Et ne pas dire que, ah oui, si vous voulez interdire telle importation
pour tel produit, vous dépendez des cinq autres, et pour le reste, les cinq autres font ce qu'ils veulent et vous aussi. Ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut une clause, peut-être transitoire, mais qui soit applicable automatiquement par les six pays membres, c'est-à-dire par la communauté. Maintenant, en ce qui concerne la proposition de M. Voustal, mais évidemment, il faut l'inclure au procès verbal comme une proposition hollandaise, en ajoutant qu'elle est inacceptable pour la délégation française. Protocoler aussi, c'est évident. Où est l'ennui? C'est que nous devons être unanimes pour appliquer le système préférentiel. C'est ça, c'est pourquoi j'ai proposé de procéder par élimination. Je n'ai pas encore fait de proposition qui était inacceptable par les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont réussi à faire une proposition qui était acceptable pour la France. Continuons, nous allons voir. Il y aura quelque chose qui restera peut-être, et ça, ce sera acceptable pour tous. Sinon, il n'y aura pas de système préférentiel après tout, vous savez. Ce n'est pas un malheur pour la communauté.
Monsieur Fantôme.
Monsieur le Président, je veux simplement dire, je me suis un peu troublé parce qu'on est en train de discuter de la politique commerciale commune de la communauté qui, bien entendu, n'existe pas encore. Mais je croyais que ceci est un problème tarifaire.
Vous appelez un médecin, en vitesse.
Messieurs, vous avez tous appris, vous savez tous maintenant que le professeur Kojève est mort ce matin à la fin de notre réunion. Vous l'avez tous, enfin la plupart d'entre vous l'ont connu aussi bien, sinon mieux que moi-même, ont eu l'occasion de le pratiquer quotidiennement pendant de nombreuses conférences, réunions de groupe. Au sein de ce groupe en particulier, il était l'un des habitués, sinon l'un des fondateurs. Il l'a fréquenté et animé depuis de nombreuses années. Il nous a donné ce matin, avant de mourir sous nos yeux, un dernier échantillon de son talent et de ses saillies qui avaient fait sa réputation. Je crois que je ne vais pas ajouter grand-chose à l'émotion qui nous étreint tous, j'imagine, aujourd'hui. Et je voudrais seulement vous prier de bien vouloir, avant de continuer nos travaux, de bien vouloir observer à sa mémoire une minute de silence.
Or, le temps, c'est l'homme lui-même. Supprimer le temps, c'est donc supprimer aussi l'homme. En effet, l'être vrai de l'homme est son action. Sans temps, l'action qui réussit. C'est dire que l'homme est le résultat objectif de son action. Or, le résultat de l'action du sage, c'est-à-dire de l'homme intégral et parfait qui achève le devenir de la réalité humaine, est la science. Mais l'existence empirique d'Assein, de la science, n'est pas l'homme, c'est le livre. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le sage en chair et en os. C'est le livre qui est l'apparition de la science dans le monde, cette apparition étant le savoir absolu. Introduction à la lecture de Hegel, Alexandre Kojève, page 384. Michel Rey, il y a une formule qui revient très souvent sous la plume de Kojève, le savoir absolu et la sagesse absolue.
Oui, alors là, c'est, on pourrait dire, une sorte d'infléchissement de la pensée de Hegel,
C'est-à-dire, au fond, le fait que la morale ne puisse plus exister sous une forme séparée, mais que la morale ne soit, en fin de compte, qu'une sorte d'accompagnement de la réalisation du savoir absolu. Et je crois que la pensée de Kojève, c'est de ce point de vue-là, une pensée qui, tout à la fois, est fidèle à l'impulsion de la pensée hegelienne, mais aussi c'est une pensée qui, je dirais, est une sorte de pensée joyeuse, c'est-à-dire c'est une pensée dans laquelle quelque chose de l'ordre du dépassement se trouve à l'œuvre, et donc que le rapport à Queneau, je crois, et le rapport à Bataille viennent, je crois, montrer ça, c'est-à-dire le rapport entre ce qui est d'un côté tragique et de l'autre comique, enfin, et cela de manière tout à fait simultanée. Au sens où l'existence de Kojève après-guerre, c'est l'existence de quelqu'un qui est joyeusement dédoublé, si je peux dire, c'est-à-dire qui passe la plus grande partie de son temps à Bruxelles pour négocier les tarifs douaniers, etc., du marché commun, et qui passe ses week-ends, dit-on, à écrire son histoire de la philosophie, c'est-à-dire qui, précisément, se trouve dans une position double de n'être pas un philosophe professionnel, d'être quelqu'un qui pense réaliser sa propre philosophie, et dans le même temps, d'écrire une œuvre importante, ces trois volumes de l'histoire de la philosophie notamment, qui sont sortis de son vivant, d'écrire une œuvre importante et d'écrire une œuvre dont il faut dire que, à mesure qu'elle paraissait, qui suscitait de moins en moins d'intérêt. Et donc je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait ironique, qui sans doute aurait plu à Kojève d'une certaine manière, et à savoir que sa renommée est une renommée de oui-dire, en quelque sorte, enfin, puisque son premier livre n'était pas de lui. Cette renommée, elle a été faite par des gens qui se sont inspirés très directement de ses leçons, qui la plupart du temps ne l'ont pas cité d'ailleurs, n'ont pas reconnu leur propre dette à son égard. Cette renommée ensuite, elle s'est étendue, mais elle s'est étendue je crois de la même manière, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été pillé sans qu'on reconnaisse jamais précisément l'importance de ce qu'il faisait. Et puis c'est quelqu'un qui, quand il a commencé toujours avec la même discrétion à intervenir en publiant ses propres livres, s'est trouvé de plus en plus marginalisé, s'est trouvé de moins en moins reconnu.
Une vie, une œuvre. Alexandre Kojève. La fin de l'histoire. Une émission de Jean Dève. Avec la participation de Denise Harari, Nina Kuznetsov, Edgar Faure, Jean-Michel Rey, Bernard Clapier, François Valéry, Jean-Pierre Brunet. Document inédit, conférence de Kojève à l'invitation du père Fessard et réunion du marché commun à Bruxelles le 4 juin 1968.
Du moment que le discours logiquement implique la prière, il faut bien quelqu'un à qui cette prière s'adresse. Sinon, c'est à désespérer du discours, alors nous sommes tous des fous. Alors là encore, ça, curieusement, et Dieu sait que pourtant, quand j'étais jeune, j'avais quelques expériences. Ouais. Des années, je ne comprenais pas. Mais c'est extrêmement banal. Une déclaration d'amour qu'un jeune homme fait à une jeune fille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, cher ami, aimez-moi. Je vous ai plaisé, bien sûr, mais peu importe, aimez-moi. Et alors, rien à faire. Il n'a pas besoin d'être riche, ni beau, ni costaud, ni... Et puis d'ailleurs, il peut marcher sur la tête. Ou bien elle l'aime, ou bien elle ne l'aime pas. On ne peut pas lui obliger quelqu'un. Inversement, si quelqu'un aime, vous avez tout de suite la plénitude du bonheur en un mot aussi. Vous dites, tu m'aimes, je t'aime, nous nous aimons, ben c'est fini. Enfin, c'est vrai, fini. Bien.
Texte lu par Anne Torres. Enregistrement et mixage Christian Fontaine, Jean-Michel Coqui, Bernard Laniel et Marie-Dominique Bougot. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
C'était une émission diffusée la première fois le 10 novembre 1990.